J'aimerais débuter ce temps de prédication en vous posant une question. Qu'est-ce qui fait de nous un chrétien? Ou, si je reformule ma phrase, qu'est-ce qui, dans ma pratique, dans mon attitude, dans ma façon d'être, va pouvoir permettre de me définir comme chrétien ou de définir des personnes qui, elles, ne seront pas chrétiennes? Qu'est-ce qui fait que dans mon apparence, lorsque je suis à l'extérieur, en fait, qu'est-ce qui va pouvoir me permettre de me définir comme chrétien? Alors cette question, c'est une question, je veux dire, qui traverse cette équipe que nous formons en tant qu'Église. Et c'est une question qui a suivi, je veux dire, l'Église depuis bien longtemps. Et je crois que bien souvent, il y a eu des tentatives de réponses que l'on a cherché à donner qui n'étaient pas forcément des bonnes réponses. Je crois que bien souvent, la pratique des autres croyances ou le regard sur certaines philosophies, certaines fois, nous fait que nous nous trompons sur la question de là où nous devons trouver notre identité en tant que chrétien. Et je crois qu'il ne faudrait pas s'imaginer ce problème ne concerne que des églises modernes, qu'elles ne concernent que des problèmes, que des églises qui sont extérieures à notre milieu évangélique. Mais ce problème, je vais dire, nous concerne à partir du moment où nous vivons une conversion et une relation avec le Christ. À un certain moment, nous avons besoin de nous redéfinir et de nous poser la question « Qu'est-ce qui fait de moi un chrétien? Où est-ce que se trouve ma véritable identité ?» Et ce problème, donc, se pose, donc, comme je vous le disais, à partir du moment où nous vivons une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce problème s'est posé déjà dans l'Église qui était en relation avec l'apôtre Paul. Et j'aimerais prendre un texte dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, et je lirai à partir du verset 6. Et on se rend compte donc que dès le début de l'histoire de l'Église, à un moment, il a fallu se poser cette question. Qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Où est-ce que se fonde mon identité? Et voici la façon dont Paul répond à cet Épître de Colosse, au chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il nous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Alors c'est très intéressant de voir le cheminement qu'a suivi les frères et sœurs qui rencontrent le Seigneur Jésus-Christ dans cette église des Colossiens. Et lorsque l'on commence à lire l'Épître aux Colossiens, on se rend compte que lorsque les croyants qui se sont réunis dans cette église ont rencontré le Christ, ils l'ont vécu avec une grande joie. Tout d'un coup, ils rencontrent le Christ, Jésus est mis au centre de leur vie, et puis toute leur orientation, tout d'un coup, se dirige en direction du Seigneur Jésus-Christ. Et comme tout chrétien qui rencontre le Christ, tout d'un coup, il se met à brûler d'amour pour le Seigneur. C'est quelque chose de formidable. Ils sont animés d'un fervent désir d'être agréables à Dieu. Et puis, ils ont aussi un désir qui est là, d'en faire de plus en plus pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu. Et puis, tout d'un coup, eh bien, on se rend compte que leur désir qui était orienté sur Jésus-Christ, petit à petit, à un moment, eh bien, à force de vouloir en faire plus en plus, eh bien, ce désir d'en faire plus en plus fait qu'à un moment, ils en font de plus en plus, mais non plus en l'orientant sur Jésus, mais ils en font de plus en plus, simplement en prétendant pouvoir faire des choses de mieux en mieux, en prétextant devenir meilleurs chrétiens, plus ils en feront. Et ce qui les avait entraînés à être pleins de désir et pleins de joie, tout d'un coup, va petit à petit les orienter de plus en plus loin du Seigneur. Et quand on regarde un petit peu la façon dont les Colossiens vont progresser dans leur foi, tout d'un coup, alors qu'ils étaient très bien partis en direction du Seigneur Jésus-Christ, en voulant ajouter des œuvres à cette foi en Jésus-Christ, eh bien, petit à petit, ils vont aller regarder ce qui se passe dans la pratique judaïque. Ah oui, de toute façon, le christianisme vient du judaïsme. Alors pourquoi ne pas regarder la façon dont le judaïsme s'est construit, et puis ils vont commencer à prendre des œuvres qui se trouvent dans le judaïsme pour le greffer à l'Église. Et puis à un moment, quand ils ont commencé à ajouter des œuvres du judaïsme, eh bien, ils vont aussi regarder ce qui se passait dans la culture grecque de l'époque, et puis ils vont regarder ce que peut apporter la philosophie grecque, la pratique mystique qui peut se trouver dans les religions grecques, et puis ils vont aussi petit à petit l'ajouter à cette pratique, à ce désir de servir Jésus-Christ. Et puis on se rend compte dans les versets 16 à 19, eh bien, que tout d'un coup, ces Colossiens qui sont partis avec un véritable amour de servir Dieu, eh bien en fait tout d'un coup se sont mis à rajouter des tas de choses qui étaient complètement inutiles à leur foi. Et puis versets 16 à 19, on se rend compte que introduction de fêtes juives, introduction de rites judaïques, il y a le principe de jeûne prolongé dans le but de trouver des extases. Donc en fait, vous savez, la pratique religieuse grecque faisait que des fois, les gens allaient se mettre à jeûner pendant une, deux semaines, jusqu'à un moment où le cerveau partait un peu dans tous les sens, et puis il rentrait dans des moments où il rentrait dans des visions, dans des choses un peu psychédéliques. Et puis, la recherche de phénomènes extatiques, vous savez, tout d'un coup, à vouloir rechercher des dons spirituels extraordinaires, comme si les dons que pouvait donner l'esprit n'étaient pas suffisants, comme s'il fallait rechercher quelque chose d'un petit peu plus grand. Ou bien la recherche de rites initiatiques. Pour que tu sois un bon chrétien, eh bien, c'est bien que tu te fasses circoncire. Pour que tu sois un bon chrétien, c'est bien que tu ajoutes telle ou telle pratique. Et puis, ce qui nous entraîne au constat, que les frères et sœurs de l'église de Colosse mettent tout d'un coup un ensemble de choses, d'œuvres, qu'ils ajoutent qui vient de l'extérieur, et qui va devenir un peu un moyen de se prétexter comme étant meilleur chrétien qu'eux. On se commence à se mettre en comparaison parce que l'on fait un petit peu plus de choses que de simplement croire que nous pouvons vivre par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et cela a une conséquence qui est tragique, et Paul s'en rend compte, c'est que petit à petit, ils perdent la confiance que le salut accompli par Jésus-Christ est totalement suffisant. Et cela les amène de plus en plus à s'éloigner du Christ. Alors qu'ils vous avaient le désir de se rapprocher du Christ, et bien petit à petit, ce désir les amène au contraire à s'éloigner. Et ces actions, elles partaient pourtant d'une bonne volonté, et je crois que les frères et sœurs de Colosse, on ne peut pas leur reprocher ce ardent désir, cette bonne volonté qu'ils avaient à la base. Mais pourtant, malgré cette bonne volonté, eh bien, ils s'éloignent du Seigneur. Et puis donc, l'apôtre Paul est mis au courant de ce qui se passe dans cette église. Et puis, l'apôtre Paul se rend compte que l'église peut courir vers un péril si elle continue à s'orienter dans ce sens. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, qui est plein d'amour et plein d'affection pour chacun de ses frères qui sont vraiment attachants. L'église de Colosse est une église attachante, ce n'est pas une église où il y a des gros problèmes. Paul connaît cette église et il se dit « Je ne peux pas laisser ses frères et sœurs s'éloigner du Christ par tout ce qu'ils vivent en ce moment. » Et donc il va écrire cette épître aux Colossiens pour venir un petit peu corriger les choses. Et voici ce que Paul leur dit. Il leur dit, pour solutionner ce problème qui est en train d'arriver, qu'ils ont besoin d'être établis uniquement sur Jésus-Christ. Et Paul va mettre le paquet dans son épître, et particulièrement dans ce chapitre 2 de Colossiens, pour dire une seule chose en substance, c'est qu'il n'y a besoin uniquement que de Jésus-Christ. Et tout ce que l'on vient ajouter, ça ne sert à rien, ce ne sera jamais assez suffisant pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Et c'est cette conviction que tout ce qui sera comme pratique légaliste, tout ce qui sera comme pratique philosophique, ne pourra jamais permettre de s'approcher de Jésus-Christ. Et le meilleur moyen de rester établi contre les fausses doctrines, Paul l'affirme avec force, c'est d'être pleinement fondé et enraciné en Jésus-Christ. Il le dit au chapitre 2, verset 7, « Soyez fondés et enracinés en Jésus-Christ ». C'est donc en se plongeant dans une intimité avec le Seigneur et en acceptant son œuvre parfaite accomplie à la croix que les frères et sœurs de Colosse pourront trouver une véritable identité chrétienne. Et ce n'est pas en ajoutant des œuvres supplémentaires. Et c'est assez intéressant de voir que dans les 13 versets que nous avons lus, il y a 11 fois Paul qui dit « en lui, par lui, sur lui ». Et c'est assez intéressant, vraiment, il insiste en disant « sur Jésus, en Jésus, avec Jésus ». Pour Paul, l'objectif et l'unique objectif, ce ne sont pas nos œuvres, c'est uniquement si ce que je fais est orienté sur le Christ Jésus. Et nos œuvres ne sont utiles à rien. Et c'est très intéressant donc de voir la façon dont Paul donc gère ce problème dans l'église de Colosse. Il utilise une douceur qui est exemplaire. En fait, on aurait envie de dire, mais il y a des problèmes qui agissent dans l'église, et puis il vaut mieux arriver là-bas, et puis d'un coup, crier sur tout le monde comme du poisson pourri en leur disant que c'est pas bien du tout ce qu'ils font. Mais la façon dont Paul va agir, non, il va agir avec une pleine douceur, avec un véritable amour pour ses frères et sœurs, parce qu'il est conscient que ses frères et sœurs, ce qu'ils font, en fait, ils le font avec une bonne volonté. Le désir de ses frères et sœurs, ce n'est pas de pécher, le but de ses frères et sœurs, ce n'est pas de s'éloigner de Jésus. Leur véritable désir, en fait, c'est de se rapprocher de Jésus. Et donc, Paul comprend bien l'enjeu du problème. Et donc, c'est pour ça qu'il va venir avec une pleine douceur, en leur disant, mais si réellement votre désir, c'est de vous approcher de Jésus, eh bien, je vais vous montrer là où vous commencez à vous en éloigner, je vais vous montrer qu'est-ce qui fait que vous vous en éloignez, et si réellement vous aimez Jésus, vous allez voir que votre désir de vous rapprocher du Christ va prendre le dessus et va vous donner de quitter toutes ces choses qui ne servent à rien dans votre vie. Et Paul, je crois, fait une analyse qui est assez juste de la situation. Il comprend donc que ses frères et sœurs sont des frères et sœurs qui aiment vraiment Jésus-Christ, qui sont remplis d'une bonne volonté, mais qu'il y a un problème doctrinal. Et donc, Paul va agir avec toute la douceur qui est nécessaire, je vais dire pastoralement, pour corriger le tir et réorienter de nouveau nos frères et sœurs. Ainsi, l'épître aux Colossiens, dans cet épître, Paul développe un véritable plaidoyer en faveur d'un retour vers le Christ comme l'unique solution pour le salut et pour avoir une relation avec notre Dieu. Le chrétien peut pouvoir affirmer être en relation avec Dieu, et il peut le faire uniquement en se fondant sur Jésus-Christ. L'homme n'a pas moyen, par aucune action, de se rapprocher de Dieu. Christ seul, par son œuvre, peut nous introduire vers le Père. Et cet attachement au Seigneur Jésus-Christ, on le trouve dans un petit condensé, déjà dans les versets 6 et 7 que je vous lis. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. » On se rend compte dans ces deux versets qu'il y a vraiment tout un condensé de ce que Paul veut leur donner. Alors je vais vous dire, peut-être qu'en entendant ce passage, on va dire, mais nous, on ne se sent pas forcément concernés par ce qui se passe dans cet épître aux Colossiens. Parce que, ceci dit, ça fait 2000 ans que les choses se sont passées, je ne pense pas que parmi nous, il y en a qui sont réellement intéressés par ce qui se passe par la philosophie grecque, on n'est pas forcément intéressés par ce qui se passe dans les religions orientales, et souvent, en tant que bons chrétiens évangéliques, on a eu dans nos enseignements des bonnes mises en garde vis-à-vis de toutes ces religions qui sont autres que le christianisme. Et même, je vais dire, on a même des fois des mises en garde qui sont contre des pratiques judaïques même si je crois que encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont quand même tentés des fois de remettre, de réintroduire des principes judaïques dans leur foi, et l'épître aux Colossiens, entre autres, mais je veux dire l'ensemble des épîtres, vous met en garde justement contre la recherche de pratiques judaïques. Mais je vais dire, je ne constate pas en tout cas parmi nous des frères qui sont réellement tentés par la mise en place de choses annexes de ces religions. Mais pourtant, je crois là que la tentation de vouloir se rapprocher du Christ par nos propres forces est une tentation qui nous regarde toujours. Et je dirais que tant que nous sommes ici-bas sur cette terre, et tant qu'on aura envie de servir le Seigneur, eh bien on aura toujours cette tentation de vouloir en faire toujours plus pour Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, pour les frères de Colosse, et c'est aussi valable pour nous, le fait de vouloir rajouter des choses ne part pas forcément d'une mauvaise intention. Et si les formes du premier siècle ne sont plus forcément un danger pour nous, eh bien je crois qu'il y a des choses dans notre pratique chrétienne encore aujourd'hui qui sont des choses qui, sans s'en rendre compte, de façon très sournoise, vont chercher à nous éloigner du Christ. Et on peut penser, je crois, certaines fois que nous professons une saine doctrine, et sous un couvert de piété, et sous des choses qui sont, je crois, tout à fait justes, eh bien, je crois que des fois, ces choses-là peuvent petit à petit, en fait, sans s'en rendre compte, nous amener à nous détacher du Christ. De façon beaucoup plus concrète, je vais prendre l'exemple du baptême. Et on se rend compte que, déjà, dans cet épître aux Colossiens, au chapitre 2, Paul, du verset 11 à 13, eh bien, prend l'exemple du baptême, et Paul se permet de faire un petit rappel de ce que signifie réellement le baptême. En fait, l'une des tentations du baptême, c'est qu'il puisse devenir un peu, vous savez, comme un rite initiatique. C'est-à-dire que on peut s'imaginer que, en ayant reçu les eaux du baptême, eh bien, ça nous permet de nous dire que nous sommes chrétiens, que nous faisons partie de cette grosse organisation qu'on appelle l'Église, et puis que c'est un peu comme la carte, vous savez, par laquelle on adhère dans une association. Et un peu comme si ce baptême n'avait pas à être actualisé dans notre vie. En fait, si je le résume un peu comme dans une phrase, je suis assez épaté des fois d'entendre des gens qui vont dire « Oh, vous savez, moi, j'ai été baptisé en 1953 ». Et puis, ils vont vous sortir ça un peu spontanément, et puis, on a envie de leur dire « Et alors ?» Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ou même, des fois, on va même rajouter « Et si vous saviez, le pasteur qui l'a baptisé, c'est un pasteur comme ça. » Et même, des fois, on peut avoir toute une liturgie, toute une litanie de pasteurs, de noms de pasteurs qui sortent, et on a envie de dire « Oui, et alors, quoi, ça me fait une belle jambe, quoi. » Paul, dans ce texte, donc, je crois, donc, lutte contre l'idée d'un acte formaliste. Et il le fait en insistant sur le rôle de la vie de l'esprit et ce sur quoi doivent être orientées les actions que nous vivons dans notre foi. Paul axe sur l'actualité du sacrement que nous avons vécu. Donc Paul axe sur l'actualité, où s'oriente ma vie aujourd'hui, dans quelle direction s'oriente ma vie aujourd'hui. Le sacrement chrétien se distingue d'un rite païen en ceci, c'est que le rite païen n'est fait que pour nous amener à un niveau supérieur, alors que le sacrement est fait pour nous orienter en direction du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce passage nous offre une mise en garde contre la religion du rite. Si mon baptême ne devient qu'un acte juridique qui me permet de dire que j'ai vécu cette chose-là et donc que je suis un bon chrétien, eh bien je me trompe et mon baptême ne sert à rien. Le but du baptême est d'être actualisé. Et j'ai envie de vous dire, si vous dites « j'ai été baptisé », j'ai envie de te dire « et alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie ? Qu'est-ce que ton baptême est aujourd'hui dans ta vie ? Est-ce que ce baptême t'amène encore aujourd'hui à t'orienter toujours en direction du Christ ? Et si le baptême n'est qu'à une occasion de se justifier, mais qu'il ne m'oriente pas en direction du Christ, eh bien mon baptême m'éloigne du Christ. C'est assez tragique de dire ça, mais mon baptême ne me permet à aucun moment de me justifier, mais au contraire, il doit à chaque instant que je me souviens que j'ai été baptisé, il doit me dire, j'ai été baptisé, c'est parce que mon objectif est de m'orienter sur Jésus-Christ. Mais cela ne s'arrête pas au baptême, et je crois qu'on pourrait faire même une liste non exhaustive de toutes ces pratiques que nous pouvons avoir dans notre vie, et qui des fois est là et qui peut être une occasion de me tromper et de ne pas m'orienter vers Jésus-Christ. Je prends le cas de la Sainte Cène que nous avons prise tout à l'heure. Si la Sainte Cène ne devient qu'une occasion de me justifier en prenant le pain et le vin, en me laissant croire que parce que j'ai pris un petit morceau de pain et que j'ai pris la coupe, eh bien que je vais recevoir une bénédiction, eh bien je me trompe. Si la Sainte Cène ne m'entraînait pas à considérer l'œuvre de Christ en moi et à m'approfondir en Christ et à connaître toujours plus le Christ, eh bien la Sainte Cène ne deviendra qu'un moyen de me justifier et non de m'éloigner du Christ. Ma justification n'est pas dans la prise d'un morceau de pain ou d'une coupe, mais ma justification, lorsque je prends le pain et le vin, elle est de dire « Je ne crois pas en mes propres œuvres, mais mon désir, c'est de croire dans le Christ qui est mort pour moi, qui est ressuscité et qui m'entraîne à marcher en nouveauté de vie. » C'est-à-dire que toute pratique peut devenir un piège si elle n'est pas là pour me rapprocher de Christ. Je vais dire de même pour le culte. Si je vais au culte simplement pour me dire que j'ai fait une bonne action et que parce que je vais au culte, je vais recevoir une bénédiction, eh bien je me trompe. Le but du culte n'est pas de rechercher une bénédiction ou de se donner une bonne conscience. Le but du culte est de rencontrer Jésus-Christ et de vivre une relation avec Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que je veux dire ce matin? La réflexion que je veux soulever, c'est que chercher son identité chrétienne dans une pratique plutôt que de la rechercher en Christ nous conduit à la faillite. Et je vous renvoie à la question que je vous posais au début de ce message. D'où vient notre identité chrétienne? Eh bien, si notre identité ne se trouve que dans une pratique ou dans une revendication en disant « je suis chrétien parce que je fais telle chose », eh bien, je n'ai pas la vie de Christ qui est en moi. C'est-à-dire que notre identité ne doit pas reposer uniquement sur une œuvre ou une action. Et même si cette action est tout à fait légitime, notre vie chrétienne doit bien plutôt puiser ses racines en Christ. Il ne faut pas que notre action ou que notre rite limite notre identité. Le baptême n'est rien s'il ne m'introduit pas dans une vie à la recherche du Christ. Et il faut, je crois, revenir en tout temps à notre véritable essence. Et cette mise en garde, je la fais, mais je crois que c'est une mise en garde que nous devons vivre à chaque instant. Nous devons nous rendre compte qu'à chaque moment, il y a des choses dans notre vie où nous devons nous poser la question « Pourquoi je fais cela ? Est-ce que je le fais pour Christ ? Ou est-ce que je le fais parce que c'est une habitude, parce que je pense que ceci va me conférer une bénédiction ou non ? » C'est-à-dire que notre identité ne doit pas se reposer uniquement sur une œuvre ou sur une action. Et donc tout ce qui n'est pas le fruit de ma relation avec le Christ est totalement inutile. Christ doit être tout en tous, nous rappelle l'apôtre Paul. C'est-à-dire que dans ma prière, l'important est de rechercher la volonté du Christ. Le culte doit être l'occasion de rendre un culte à Christ. Mon baptême doit devenir le début de ma recherche du Christ. Et l'un des dangers auxquels on s'expose en s'arrêtant au rite, c'est de vouloir se rapprocher de Dieu par des œuvres, ce qui équivaut à diminuer l'œuvre de Christ. Toute tentative d'une recherche d'atteindre Dieu sans le Christ, en le mettant au centre, est une tentative vaine. Cela fait croire que Christ ne serait pas suffisant, et ceci nous conduit toujours plus dans le cercle de la surenchère qui nous amène dans le légalisme. Et comme ces Colossiens qui débutent au début en mettant quelques principes judaïques, en disant « tiens, on va mettre un petit peu ci, un petit peu ça », puis tout d'un coup ils se disent « maintenant que j'ai fait ça, il faut que je démontre encore que je suis meilleur chrétien, alors on va rajouter encore d'autres choses, et on va rajouter encore d'autres choses ». Et la façon dont Paul cherche à briser ce cercle, c'est en disant « non ». L'important, c'est est-ce que mes actions sont le découlement de ma foi dans le Christ Jésus? Est-ce que c'est le Christ qui m'amène à pratiquer ces choses? Donc, en fait, la façon dont ce que Paul veut dire, c'est ma pratique doit découler de mon identité de Christ, et ce n'est pas ma pratique qui vient définir mon identité. Et il faut prendre conscience que lorsque nous agissons comme cela, eh bien, nous sommes très loin d'honorer Dieu. Et bien au contraire, nous diminuons son œuvre et donc nous éloignons toujours plus de lui. Il nous faut donc nous interroger régulièrement sur notre pratique pour voir si elle me rapproche du Christ ou si elle devient uniquement une occasion de me glorifier par moi-même et ainsi d'abaisser le Christ à mes propres yeux. C'est uniquement par un retour au Christ que notre pratique sera saine. Christ doit être tout en tous. Et la fatigue des Colossiens s'expliquait dans ce simple fait. En fait, ils ne s'étaient pas attachés au Seigneur. À un moment, ils se sont détachés du Seigneur pour s'attacher à des rites. Et de même pour nous, il nous faut confesser que toutes les fois où nous voulons ajouter des choses dans notre pratique pour nous justifier, eh bien, nous éloignons le Christ du centre de notre vie. L'attitude des Colossiens doit venir donc ce matin nous aiguillonner et nous entraîner à nous poser la question. Qu'est-ce que ce matin je suis venu chercher en venant ici? Est-ce que je suis venu chercher Jésus-Christ? Et mon désir, et le désir de l'Écriture, c'est que tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons dans notre vie, puisse nous orienter toujours plus sur Jésus-Christ. Que Jésus soit le centre de nos pensées et que ce soit toujours Jésus qui soit mis au centre. Et c'est à partir du moment où Jésus est au centre que toutes nos activités, toutes nos actions pourront réellement être conduites avec un véritable fruit, avec un fruit spirituel. J'aimerais donc en venir à la conclusion de ce message. La marche chrétienne est une marche qui est longue et nous serons toujours tentés à un moment ou à un autre de vouloir ajouter des choses dans notre pratique. Mais je crois qu'il est bon de temps en temps à nous arrêter, à nous dire « Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que le matin, quand je prie, je le fais simplement parce que je veux me donner une bonne conscience? Est-ce que quand je prie, je cherche simplement à avoir une bénédiction? Mais est-ce que quand je prie, je recherche réellement Jésus-Christ? Lorsque je fais telle ou telle œuvre, est-ce que je le fais simplement comme une action en me disant qu'un chrétien doit agir comme ça? Ou est-ce que je le fais parce que je veux chercher Jésus-Christ? Et si nous cherchons réellement Jésus-Christ, et bien à partir de ce moment-là, nos actions seront réellement des actions chrétiennes. Alors j'aimerais vous reposer la question que j'ai posée au début de ce message. Où trouvons-nous réellement notre véritable identité? Et j'aimerais que la réponse que nous puissions réellement donner ce matin, c'est mon identité et mon unique identité, je la trouve en Jésus-Christ. Et je veux réellement qu'il soit le centre de ma pratique. J'aimerais vous inviter à prier pour terminer ce moment. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te remercier parce que nous nous rendons compte que notre marche chrétienne est une marche qui est longue. Et Seigneur, je te loue pour cette parole qui nous dit que, ben oui, on est humain et puis, bien, à certains moments, on peut se détourner d'un objectif et que ça fait partie de notre cheminement, de notre marche, à des questionnements, de notre faiblesse. Mais Seigneur, on veut te remercier parce que, ben, par l'Esprit avec lequel tu as animé ta parole et avec lequel tu nous animes, ben, tu viens nous aiguillonner pour nous poser la question sans cesse, de savoir si tu es le centre. Seigneur, notre Dieu, notre désir, notre ardent désir, c'est que notre identité, nous ne la mettions pas dans des œuvres, dans des pratiques, et que notre véritable identité, nous la trouvions en toi, et que tout ce que nous faisons, tout ce que nous cherchons, soit réellement tout.